Les trois églises. Vers l'époque où Christophe Colomb fait ses voyages au Nouveau Monde, un chêne commence à pousser sur un coteau au milieu de ce territoire des Amérindiennes d'Acapa. La première église. Les Acadiens français sont exilés de la Nouvelle-Écosse vers le milieu des années 1700, étant reçus des concessions de terrain à cultiver dans le sud de la Louisiane. L'abbé Michel Bernard Barrière, un prêtre missionnaire d'origine française, vient construire une église paroissiale afin de pourvoir aux besoins des Acadiens. Le jeune prêtre explore la région en espérant de trouver un terrain élevé pour son église. Il tombe sur le grand chêne vert. Il sait que l'arbre ne pousserait pas si bien si c'était inondé. L'abbé Barrière parle à Jean Mouton, qui cultive de la canne à sucre sur cette étendue de terre. En 1821, Monsieur Mouton se met d'accord pour donner 5,5 arpents de terre pour la première église, est ainsi que le cimetière à côté du chêne. L'église est abandonnée pendant la guerre de sécession, quand Banks, général dans l'armée de l'Union, envahit la petite ville de Vermillionville avec sa cavalerie et établit son quartier général à l'église. Après de nombreux accrochages, l'église est gravement endommagée. La deuxième église. Pendant l'époque de la Reconstruction après la guerre, le révérend Gustave Rouxel commence la construction de la deuxième église en 1862. Le révérend Hyacinthe Gonellaz prend la relève en 1872 et en 1881, l'abbé Ernest Forge fait faire de nombreux travaux d'aménagement et ajoute le clocher flamand. La communauté noire dépose une requête de faire partie de la paroisse et on ajoute les deux transepts latéraux. Les Noirs américains forgent la cloche ou le clocher afin de faire preuve de leur bonne volonté. Au début des années 1900, un ouragan violent renverse le clocher, jette la cloche à terre, arrache la plupart du toit et casse de nombreux vitraux. La troisième église. Le jeune abbé William Joseph Terlings vient de Tilburg, aux Pays-Bas, afin de rassembler un troupeau dispersé de fidèles et de construire un édifice adapté à servir est accommodé une paroisse qui grandit. Il contacte E.A. Cousin, un architecte néerlandais, pour dessiner les plans pour l'église. L'entrepreneur, M. Eugène Guillot, commence le travail en 1912. On recrute les maçons d'Italie pour installer le briquetage. La pierre angulaire est peignée en 1913 par l'archevêque James Blank, SM, de la Nouvelle-Orléans. L'église romane en style hollandais est bénie en 1916 par l'évêque auxiliaire John Marius Laval de la Nouvelle-Orléans. Deux ans plus tard, le diocèse de Lafayette est érigé et Jules Benjamin Jean-Marc, fils du pays, devient le premier évêque de Lafayette. Le 8 décembre 1918. La cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste est le siège épiscopal pour 152 000 catholiques. Le nouveau diocèse inclut toutes les régions du sud de la Louisiane, à l'ouest du fleuve Atchafalaya, jusqu'au fleuve Sabine, à la frontière entre la Louisiane et le Texas. Les objets utilisés dans les célébrations du culte. Publié initialement en 1811, Cette version de la Bible de Douai fut traduite de la Vulgate latine avec du commentaire étendu par l'abbé George Leo Haydock, né 1774 et mort en 1849. Un prêtre catholique anglais. La Bible de Douai et le Nouveau Testament de Reims ont été donnés au musée de la cathédrale en mémoire de Marie Farrell Rowan. Remontons à 1850, un chapelet d'eau pour l'habit d'une religieuse vient du monastère des Brigitines d'Altomünster en Allemagne. Remontons à 1919, le chapelet d'un évêque de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie montre les reliques de Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal. Beaucoup d'autres vieux livres de prière en anglais, en français et en allemand sont mis en exposition. Les collections des images pieuses de Corinne de Clouet sont des mémoires de ses années à l'école Mont-Carmel. Les serre-livres anciens de Saint Jean-Baptiste Enfant et de l'Enfant Jésus ont été restaurés et soutiennent des lectionnaires, des sacramentaires et des textes en latin, en français et en anglais. Offerte en mémoire de Warren Charles Doty Jr., voici un crucifix italien avec 12 reliques. La chorale de l'école aux garçons de la cathédrale chantent souvent pour des événements entre 1949 et 1950. Les souvenirs des premiers évêques et prêtres. L'ostensoir est le service de burette en cristal filigrané qui appartiennent à l'Église et remontent aux années 1820 ont été utilisés dans la première Église appelé Saint-Jean de Vermillon. La construction de l'évêché est achevée en 1921, 100 ans après l'établissement de la première église en 1821. La grande photographie montre le jeune évêque Jules B. Jean-Marc avec 121 pasteurs du diocèse de Lafayette. L'évêque Maurice Schneider, le deuxième évêque de Lafayette, commémore le 50e anniversaire du diocèse en 1968. Une pièce de bronze est moulée pour l'occasion. Monseigneur Glenn John Provost sert de pasteur de la cathédrale de 1985 à 1998. Il apporte de nombreuses améliorations à la paroisse. Plus tard, il est nommé évêque du diocèse de Lake Charles. Il laisse son calice et ses voies mariales au musée de la cathédrale. Les heures du Moyen-Âge de 1862 est faite en xylographie. L'imprimeur est Cruel et l'artiste est Engelmann. À Paris, en France, il fabrique un livre de prière merveilleux en français. C'est un cadeau pour l'abbé Jules B. Jean-Marc. Le chanoine Charles Burton Mouton, qui a servi à Rome à la basilique Sainte-Marie-Majeure au Vatican pour de nombreuses années, et Mgr Richard von Foulmouton, qui est en résidence à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste, sont les descendants directs de Jean Mouton, fondateur de Lafayette. Imprimé en 1899, le missel romain avait été utilisé à la Sainte Messe avant le Concile Vatican II. Exposition. L'autel. L'autel met en exposition de nombreux artefacts d'avant Vatican II. Voici au-dessus un crucifix d'autel ancien. Les canons d'autel en latin de l'église Saint-Michel de Crowley en Louisiane sont un don de la famille d'Émile Régis. 6 chandeliers en cuivre qui ont été restaurés remonte à la première petite église. Les enfants de chœur sonnaient les sonnettes de l'autel en cuivre pendant la consécration. Le symbole de la croix alterne avec le calice, sur la dent incrustée à la main par Madame Petro, sur une nappe d'autel de lin. En 1936, l'évêque Jean-Marc engage un bijoutier à Paris pour fabriquer un ostensoir qui est recouvert d'or et embelli d'images cloisonnées. C'est afin de commémorer le premier congrès eucharistique dans l'État de Louisiane. On l'utilise pour les bénédictions et les 24 heures d'adoration du Saint-Sacrement. Tous les ans à Pâques, on met un nouveau cierge pascal sur un chandelier. Pendant les messes liturgiques spéciales, les enfants de chœur portent des lanternes de procession qui se balancent. Quatre vieux carreaux de vitrail sont un don de l'abbé Harry Benefield. La salle intérieure du musée, la collection Ambassadeur Jefferson Caffery. Au cours de sa vie, l'ambassadeur Caffery sert 12 pays différents sur 5 continents différents. Jusqu'à présent, il dépasse tous les autres diplomates du département d'État des États-Unis en année de service. Les médailles et rubans en exposition sont des trophées bien mérités d'une carrière exceptionnelle en diplomatie américaine. La décoration de la Grande Croix de la Légion d'honneur lui est décernée par la République française le 6 mai 1949. L'Égypte lui décerne le grand cordon de l'ordre d'Al-Kamal en septembre 1956. Il est installé dans l'ordre souverain militaire de Malte à Rome en juillet 1957, en reconnaissance de son service au Vatican. En 1960, il est décoré avec la Grande Croix de l'Ordre de Pie IX. L'Université Bellarmine lui confère un diplôme honoris causa en 1955. Il reçoit la médaille Lettré pour la paix de l'Université Notre-Dame. Son personnel de l'ambassade au Caire lui donne 3 anciennes sculptures en ivoire d'éléphant. Bienvenue au musée de la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste. En face de vous se trouve la crèche napolitaine, Anneli Guénot. Une scène figée dans le temps représentant des figurines créées par des artisans des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette reconstitution de la nativité à Bethléem qui dépasse la réelle est située à Naples. Et fort de Saint François pour enseigner tout ce qui concerne la naissance du Christ. La cité de Naples et son port naturel sont situés au pied du volcan le Vésuve. Les Grecs y ont construit des temples dédiés aux dieux et le poète Virgile en a décrit des triomphes et les tragédies. Les forts, les aqueducs, les routes et les arcs de triomphe ont été bâtis pendant l'Empire romain. La chrétienté a ajouté des tours pittoresques de cathédrales à cette agglomération nichée entre la montagne et la mer. La beauté et la laideur cohabitent dans l'un des ports les plus surpeuplés d'Europe. Le point central du panorama et Jésus, l'enfant roi. Dieu l'a fait homme, né nu comme eux, dénué de tout ornement ou de parure, nouvelle alliance placée sur la poussière des civilisations passées. Marie, Mère de Dieu, regarde avec adoration son nouveau-né, manifestation parfaite de l'humanité destinée à racheter le genre humain de ses péchés. Joseph, l'époux de Marie, l'a aimé avec respect, à la fois son consolateur, protecteur et chef de famille. Bien qu'il ait peut-être été déconcerté par le dessein du Tout-Puissant pour leur enfant, Emmanuel, Joseph, sans aucun doute, resta loyal et fidèle à ses responsabilités parentales. Au-dessus de cette scène de nativité, des anges, messagers du paradis, proclament aux bergers la grande nouvelle. Réjouissez-vous, car cette nuit, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. À ce moment-là, les bergers gardaient leurs moutons sur les collines. On les montre souvent jouant de la cornemuse, peut-être pour apaiser le troupeau et passer agréablement le temps à faire de la musique. Les trois rois viennent de l'Est, suivant son étoile. Les mages, Melchior, Gaspar et Balthazar, offrent au nouveau-né des cadeaux d'or, de myrrhe et d'encens. Ils sont accompagnés d'une femme astrologue à cheval. Cette scène représente le port de mer de Naples, surpeuplé, où les bateaux conduisent beaucoup de races et classes de la société à marchander et échanger des biens au marché. Les bijoutiers, les orfèvres et les marchands de bronze montrent leurs articles en coffre qui débordent près d'une fontaine embellie d'une tête de lion. Les guerriers de la Mongolie offrent les armées et armes de guerre. Des Africains traversent la mer Méditerranée à travailler et négocier. Les fermiers cultivent des céréales, des fruits et des légumes dans la terre féconde du volcan. Ils ont des animaux apprivoisés pour aider avec le travail et nourrir la famille. Les vendeurs de vin se fournissent des raisins en abondance pour faire des vins mousseux à vendre par flacon ou par gobelet. Beaucoup de musiciens se montrent avec des instruments d'autrefois, faits de cuivre jaune, des instruments d'anche et des instruments de percussion. Un homme qui porte une parapluie escorte au marché des dames raffinées qui portent des vêtements et bijoux qui étaient à la mode pendant le 18e siècle. Une femme samaritaine arrive à la scène de la nativité dans sa chaise à porteur doré qui s'appelle Hauda. Une fille bohémienne qui porte un collier de corail, offre de la pêche nouvelle de la mer. Des lames émoussées se font affiler sur une meule qu'un homme actionne avec une pédale. Des enfants jouissent d'une course en ville par âne. Des femmes préparent un repas dans la cuisine où l'on voit une côté de lard est une tête de cochon qui s'en penchait à côté du fromage vieillissant. Un jeune homme qu'on a envoyé skier du bois et ramener de l'eau se repose des corvées domestiques en sommeillant dans le foin. Maisons et cages d'oiseaux abritent des colombes qui roucoulent. Une mère qui porte un enfant en mailloté, viennent au marché pour acheter des besoins du jour avec son mari. Regardons les deux vitrines à côté. On a ajouté ces deux vitrines de côté pour rétablir le fait qu'il n'avait aucune place pour Marie et Joseph à l'auberge. Donc, il a fallu que Jésus soit né dans l'étable où l'on avait des animaux. La vitrine à droite représente une auberge somptueuse. Les patrons dînent à une table remplie de bonne nourriture, des huîtres, des coquilles, des vins locaux et une variété de fruits et légumes. Pour tenter le goût, on pend des viandes sur une file de bûcherons. Dans la cuisine, un groupe de femmes prépare la nourriture qu'on sert avec du pain frais. D'un balcon, un groupe de musiciens joue une pièce pendant qu'une demoiselle chante une aria. Dans l'autre vitrine, c'est encore emphase qu'il n'y avait aucune place pour Marie et Jésus à l'auberge. Alors Jésus était né dans l'étable où l'on avait mis des animaux. D'une niche dans le mur, l'archange veille sur la scène. Un grand voyageur trouve un lieu d'asile dans un fenil où un garçon ramasse des œufs. En bas, quelques femmes choisissent de la volaille à boucher pour préparer le dîner. Un groupe de vieillards s'amasse autour d'un petit baril de liqueur à goûter du rhum chaude. Un pamphlet est disponible si vous voudriez expliquer notre exhibition au prochain. Un pamphlet bleu est disponible en français.
Georges Josse fabrique ce violon en Belgique en 1860. Il émigre à la Nouvelle-Orléans et arrive finalement à Vermillionville pendant une épidémie. Il utilise des éclats d'un violon Joseph Guarneri afin de fabriquer l'image incrustée de la basilique Saint-Pierre de Rome. Monsieur Josse est enterré dans notre cimetière Saint-Jean. Le 19e siècle, à la fois pasteur et constructeur. L'abbé Bernard Barrière arrive au pays des Amérindiens à Tacapa dans une pirogue avec l'intention de construire une église et de servir de pasteur aux Acadiens français qui ont été déplacés de la Nouvelle-Écosse par les Anglais. Jean Mouton lui fait don de 5 arpents de terre près du Grand Chêne Vert. La construction de l'église est achevée en 1821. Pendant la guerre de Sécession, l'église est gravement endommagée. L'abbé Antoine Maigret essaie d'entreprendre des réparations, mais les fonds lui manquent. Une épidémie de fièvre jaune lui enlève la vie en 1853. L'abbé Rouxel commence la construction d'une deuxième église pendant l'époque de la reconstruction de l'Union, et l'abbé Gonelaz prend la suite plus tard. En 1881, l'abbé Ernest Forge vient de la France et il continue de rénover et d'agrandir l'édifice. Malheureusement, un ouragan renverse le clocher et arrache le toit. L'abbé Forge meurt en 1905. Monseigneur William Joseph Terlings vient de Tilburg aux Pays-Bas afin de superviser la construction d'une cathédrale faite de briques et maçonnerie. Il donne mandat à E.A. Coussin, un architecte néerlandais, pour élaborer les plans et Eugène Guillot pour être l'entrepreneur. Des maçons d'Italie installent le briquetage. La construction de l'église est achevée en 1916. Elle a coûté 75 000 $. Le diocèse de Lafayette. Le diocèse de Lafayette est créé par un décret du pape Benoît XV le 11 janvier 1918. À l'âge de 39 ans, Jules B. Jean-Marc est le premier évêque qui est originaire de la Louisiane. Sa chaise en bois et cuir, son anneau épiscopal, son calice et ses vêtements sacerdotaux sont en exposition. Il est évêque de 1918 à 1956. Maurice Schneider est évêque en 1956 jusqu'à sa retraite en 1972. Parmi les objets d'art, on peut y voir son calice Saint-Remi, sa crosse, une médaille pour commémorer son ordination, ses vêtements sacerdotaux et des souvenirs du Concile Vatican II à Rome. Gérard L. Fry devient le troisième évêque de Lafayette en 1972, après avoir été évêque de Savannah en Géorgie. Il établit le Bishop Services Appeal afin d'aider au financement des services dont le diocèse a besoin. Il prend sa retraite en 1989. Dans son exposition, il y a des photographies, des vêtements sacerdotaux, sa mitre, sa crosse, son calice, sa croix pectorale, son anneau et sa courtepointe. L'évêque Harry J. Flynn rejoint le diocèse de Lafayette en 1986 comme évêque coadjuteur à l'évêque Fry. Il se concentre sur les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse. Sa collection de souvenirs comprend les vêtements sacerdotaux, les photographies, l'anneau et la croix pectorale. Il est nommé archevêque de l'archidiocèse de Saint-Paul et Minneapolis en Minnesota. Edward J. O'Donnell est nommé le cinquième évêque de Lafayette en 1994. Ses vêtements sacerdotaux, sa mitre, sa crosse et son calice sont en exposition. Il souhaite rapprocher le monde en paix et en harmonie. Sa devise est unir tous. L'évêque Michael Jarrell, originaire d'Opelousas, devient le sixième évêque du diocèse de Lafayette en 2002. Il a été l'évêque de Homa-Thibodeau pour 10 ans. Il souligne l'importance de l'intendance dans la vie de l'Église et dans le développement spirituel de chaque paroissien. La charité en tout est sa devise. L'évêque Joseph Francis, originaire de Lafayette, est ordonné évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Newark, en New Jersey, en 1976. Il est un travailleur infatigable pour la justice raciale et devient un acteur prédominant à l'échelle nationale en 1979. Comme président du comité des évêques catholiques aux États-Unis. Ses vêtements sacerdotaux, sa croix pectorale, son anneau et son calice sont en exposition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Veuillez rendre le lecteur MP3. Vous pouvez garder les écouteurs.